Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse, une émission santé ce matin, et on s'intéresse à toutes les questions que vous n'osez pas poser à votre médecin. On s'interdit parfois de lui parler de certaines choses, par honte, par peur du jugement, d'un regard surplombant, des tabous et des non-dits qui peuvent entraîner un retard diagnostique, peur de parler de la mauvaise haleine, des mycoses et autres champignons, de la peau luisante, des flatulences, peur d'évoquer des fuites urinaires, les hémorroïdes, etc. Un menu peu ragoûtant a priori. Nous répondrons toutefois à vos interrogations sans peur du reproche. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. Et si vous n'osez pas parler directement au standard, n'hésitez pas à nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Romancier et médecin généraliste en direct de Toulouse cette semaine. Vous vous intéressez ce matin à la communication entre les soignants et les soignés.
Oui, je veux vous parler de ma rencontre avec un patient parce que oui, même avec le masque, notre métier reste une histoire de visages qui se rencontrent.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, Grand Bien vous fasse.
Généralement, après avoir mangé ou un osso buco ou une tarte ou du pot-au-feu, tout ce comme ça, je vais rapidement aux toilettes, quoi, et j'ai l'impression que j'ai vécu assez vite, quoi.
Et vos selles sont comment ?
Pardon, les quoi ?
Vos...
Ah oui, le caca. En fait, il est couleur sympa.
Ouais, mais... bon, ok, c'est bon, d'accord.
Extrait d'un gars et une fille, et pour répondre à toutes les questions que vous n'osez pas poser à votre médecin, deux experts. Bonjour, docteur Philippe Charlier.
Bonjour.
Vous êtes médecin légiste, archéo-anthropologue, directeur du département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly Jacques Chirac, et sous votre direction, vous publiez chez Humaine Science ces questions que vous n'osez pas poser à votre médecin dans la collection dite 33. Bonjour docteur Adrien Chaboch.
Bonjour Ali.
Habitué de cette émission, vous êtes médecin généraliste et hypnothérapeute. Et votre dernier livre, c'est lequel ?
Oh, le dernier, on peut parler de fatigue.
Voilà, c'est voilà. Ça, en poche. Alors docteur Philippe Charlier, de votre point de vue de médecin légiste, vous êtes confronté aux tabous qui entourent la mort et le cadavre. Comment comprenez-vous, donc de ce point de vue, les complexes et les tabous, la honte qui peuvent accabler certains patients face à certaines questions?
Alors d'abord, les médecins légistes, ils font pas que s'intéresser aux défunts, aux cadavres.
Exactement.
Il y a aussi une médecine légale clinique qui s'intéresse aux patients vivants qui sont malheureusement touchés par les traumatismes, à la fois psychologiques mais aussi corporels. Et dans ma vie de médecin légiste clinicien, j'ai été médecin de prison pendant 3 ans, car la médecine pénitentiaire appartient en grande partie au champ de la médecine légale. Et là, j'ai pu être au contact direct avec des patients qui avaient tous les maux de la médecine générale, avec des mots en plus qui étaient ceux de la privation de liberté et puis d'une absence complète de malheureusement pour eux de pudeur vis-à-vis des gardiens de prison et autres. De là est venue l'idée de présenter ce livre-ci qui est toutes les questions qu'on n'ose pas poser, pour lesquelles on met une chape de tabou qui ne devrait absolument pas exister. S'il y a bien 2 personnes au monde à qui on doit tout dire, c'est d'abord son conjoint, sa conjointe, et puis son médecin, son praticien, c'est-à-dire que c'est l'endroit, le cabinet médical ou la salle de consultation où cette relation entre le médecin et le malade, entre le patient et son soignant, doivent tout dire. Et oui, vous les avez dit, il y a des frontières qui existent qu'il faut absolument faire sauter. Soit on n'a pas envie, soit on ne peut pas déranger parce qu'on respecte son médecin, soit on n'a pas le temps parce que la consultation est trop rapide. Et ben voilà, il faut prendre ce temps, il faut oser tout dire, il faut se mettre à nu, au propre comme au figuré face à son médecin. Et ce livre essaye d'aider un tout petit peu.
Alors une question qui explique parfois notre réticence à poser certaines questions à nos médecins. Comment voyez-vous vraiment vos patients et pouvez-vous vous empêcher de les juger, docteur Adrien Chaboch ?
Ça dépend, ça tient beaucoup, je pense, à la formation. Et toutes les filières de spécialité médicale ne sont pas toutes formées de manière égale à la communication et au cadre de la relation thérapeutique. Dans la relation thérapeutique, il y a des règles. C'est pas simplement je reçois un patient dans un cabinet avec le secret médical. Non, c'est un peu plus complexe et c'est très enrichissant, très nuancé. Et notamment dans ce qu'est la relation thérapeutique, qui est une science, moi j'hésiterai pas à dire, parce qu'il y a des études qui sont faites qui montrent des choses. Eh bien, il y a des règles, et notamment le principe de bienveillance et d'accueil inconditionnel du patient, ce qui sous-entend un non-jugement total. C'est-à-dire qu'on est dans notre blouse, comme j'ai coutume de le dire, même si j'en porte pas forcément, sauf à l'hôpital. On n'est pas là pour juger, ni même donner notre avis. Et c'est ce qui va donner un espace de liberté totale au patient qui va alors se sentir spontanément à dire les choses.
Docteur Charlier,
on est vraiment comme une éponge et on est là pour absorber non pas la maladie, bien sûr, ni les symptômes, mais toutes les informations qui émanent du patient. Il y a une part de verbaliser, et puis il y a une part de non-dit. Ce qu'on voit, quand je suis rentré dans ce studio, je vous ai regardé, enfin sans masque, je vous ai vu, et voilà, il y a une part d'information physique, il y a les odeurs également, la posture, il y a beaucoup de choses qui passent comme ça, et l'inconfort d'un patient, on peut, nous, médecins, le sentir, mais également infirmiers, aides-soignants, tout le corps médical, et ensuite être amené à poser des questions pour ouvrir la parole, tout simplement. Donc c'est vraiment un dialogue singulier au sens de non pas une seule personne qui parle, mais un dialogue unique, extraordinaire.
Les odeurs, vous me faites peur, docteur Charlier.
Si, non, les odeurs sont extrêmement importantes chez un patient diabétique, par exemple. Une odeur d'acétone est extrêmement importante pour mettre en évidence un déséquilibre de traitement et en l'occurrence de glycémie. Non, c'est y compris en médecine légale, mais là c'est autre chose. Médecine légale thanatologique, là les odeurs sont un peu différentes.
Baptiste Beaulieu, on a vu récemment des médecins se moquer en secret de leurs patients sur un groupe Facebook, le divan des médecins. L'Obs y avait recensé des centaines de commentaires sexistes, homophobes, racistes, grossophobes, ou qui critiquaient ceux qui bénéficiaient de la CMU. Hein.
Oui, je pense qu'il y a une erreur à penser que parce qu'on enfile une blouse blanche, on arrive à se départir d'un seul coup des préjugés ou des stéréotypes qui sont les nôtres, et on en a tous. Et c'est normal, on vit dans une société, on est irrigué par les préjugés, les stéréotypes de cette société. Et c'est pas horrible, c'est pas mal de dire que oui, les médecins ont aussi des stéréotypes et des préjugés, et que c'est notre devoir aussi professionnel que d'essayer de penser contre nous-mêmes, et donc d'essayer de se départir de ces préjugés, de ces stéréotypes. Cette image du médecin qui enfile la blouse et qui devient une sorte d'icône neutre, c'est une erreur, je pense, et qui dépolitise un petit peu les rapports de domination qui peuvent exister entre soignants et soignés.
Docteur Chaboch.
Et j'abonde dans le sens de Baptiste Beaulieu, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas aseptisé, on est des humains, comme tout le monde, et donc on ressent des choses. Et dans le champ, justement, de ma discipline, notamment de la médecine générale, où on est dans l'accompagnement au long terme, et bien de ressentir des choses, c'est une information clinique. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se fermer à ce qu'on ressent. On sait faire la distinction entre, effectivement, des comportements qu'on aurait dans la socialisation ou dans le cadre professionnel, mais même, parfois, on peut ressentir des émotions. On peut ressentir du rejet d'un patient, dire « Ah, celui-là, vraiment, j'ai une sensation de rejet, ou je l'aime parfois, on est très proche parfois. » Mais ce contenu que nous n'allons pas verbaliser au patient est une information clinique, parce qu'elle entre en résonance avec nos émotions, notre personnalité. C'est ce qu'on appelle communément, ce qu'on appelle le contre-transfert, on le doit bien à Freud pour ça, et ça c'est important. Et ces informations ne sont pas juste « je suis assailli d'émotions », c'est que ça va nous aider à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer avec le patient? Il se passe quelque chose, il y a une émotion, il y a un non-dit, il y a un dit. Parfois, ce que parfois nous on peut ressentir de manière très... Mon confrère Philippe Charlier disait qu'on était... Et plein de choses qu'on ressentait, oui. Mais parfois, c'est des informations sur le patient. Par exemple, le rejet. Mais parfois, c'est que le patient lui-même peut se sentir rejeté. Et donc, ça permet de l'expliciter et d'avancer avec.
Je vous propose d'écouter l'écrivain et médecin Martin Vinclair dans Grand Main vous fasse le 10 octobre 2016.
Quand j'ai fait ma première année de médecine et que je me suis retrouvé face à des gens qui, alors que je pensais qu'ils étaient là pour nous apprendre la bienveillance, la gentillesse et le soin, qui nous apprenaient essentiellement que ceux d'entre nous qui réussiraient le concours de médecine étaient forcément supérieurs aux autres et donc ils seraient forcément supérieurs à ceux qui soigneraient. Et si je donne une définition du médecin maltraitant, c'est précisément pour que les patients sachent si leur médecin est maltraitant ou pas, parce qu'il y en a qui le sont pas. Et la maltraitance, ça commence tout simplement par le manque de respect. C'est-à-dire, je suis un médecin, je suis devant vous, si je ne vous écoute pas, si je me moque de vous ou de votre plainte, si je considère que ce que vous me dites n'a pas d'intérêt, si je ne réponds pas à vos questions, si je ne vous explique pas ce que je vais faire, si je ne vous demande pas la permission de vous examiner, si je vous impose un certain nombre de choses, je suis un médecin maltraitant.
Martin Vinclair dans Grand Main vous fasse, et qui publiait à l'époque Les Brutes en blanc, où il dénonçait la violence médicale verbale également. Il y a donc, Baptiste Beaulieu, cette peur d'être jugé avec ce regard parfois inquisiteur, regard médical surplombant ou condescendant. Nous en avions déjà parlé dans cette émission la saison dernière à propos des patients diabétiques à qui l'on fait trop souvent la morale et que l'on peut culpabiliser.
C'est une erreur de penser que les patients et les patientes qui nous consultent ne sont pas au courant de leur pathologie. Vous savez, une personne en situation de surpoids qui vient pour une angine et qui va être systématiquement ramenée à son poids alors qu'elle est juste venue consulter pour une angine, je pense qu'elle sait qu'elle est en surpoids, que toute la société lui rappelle en permanence. Et donc, hormis s'inscrire dans la longue lignée des médecins culpabilisateurs, ça sert à quoi de ramener ça sur le tapis? Par contre, essayer de nouer une relation, un colloque singulier avec cette patiente ou ce patient, et petit à petit lui permettre de créer un territoire apaisé dans lequel elle se sentira libre de pouvoir confier, ben voilà, j'ai envie de perdre un petit peu de poids, ou je me sens mal à l'aise avec mon poids, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça aussi le rôle du soignant.
Docteur Charlier. Le rôle du soignant, en effet, c'est d'être au service. Vous savez, les médecins ne sont pas des saints. Vraiment pas. On a beaucoup de failles, on est loin d'être parfait, même s'il y a quelques médecins qui ont été sanctifiés, j'en ai vu récemment à Rome, mais rares sont ceux qui arrivent à ce niveau-là. Et en effet, on est faillible, tout est affaire de sentiments, de contacts, comme le disait mon confrère, c'est une relation pleine et entière. On se livre dans les deux sens. Le médecin, lui aussi, se livre dans son rapport avec l'autre. Et il ne faut jamais forcer. Il faut inciter, il faut faciliter, il faut s'ouvrir. Mais pardon, c'est comme dans une relation intime. Évidemment, l'intimité ne doit pas exister entre un médecin et son patient. L'amitié, oui, mais pas au-delà, bien sûr. Il y a une frontière à ne pas franchir. Mais ce rapport extrêmement intense entre l'un et l'autre, oui, cette relation médecin-malade, c'est une des plus belles choses que j'ai vues. Moi, je me souviens en prison d'avoir passé 2 heures entières à parler juste littérature avec un patient, juste littérature. Je suis certain, c'était autour d'Italo Calvino, et je suis certain que ces 2 heures autour d'Italo Calvino ont été 1000 fois plus efficaces qu'un médicament quelconque. C'était, voilà, on ne soigne pas qu'avec des médicaments. Les attitudes, le dialogue, la parole sont extrêmement importants.
Docteur Chaboch.
Oui, alors, merci Philippe Charlier de rappeler que ça soigne, que ça fait du bien. Et c'est pas un placebo. L'autre jour, j'en rediscutais avec un patient.
Et c'est pas un temps perdu non plus.
C'est un temps gagné. Parce qu'on en connaît plus sur le patient. Le patient nous connaît plus. Et il y a un lien de confiance qui s'accentue. Et tout ça, ça a été étudié. C'est-à-dire que ce qu'on peut aussi désigner par ce qui a été nommé par Carl Rogers, qui est un psychologue humaniste absolument fantastique du siècle précédent, et qui a parlé d'approche centrée sur la personne, sur le patient. C'est-à-dire on va se défocaliser un petit peu du symptôme de la maladie, et on va replacer l'individu dans son entièreté, à la fois biologique, évidemment, on va pas que discuter de littérature, on va l'incorporer évidemment dans la consultation médicale, mais aussi psychique, sa personnalité, et pas simple, on va pas le faire une psychothérapie, c'est juste qu'est-ce qu'il ressent, et social, tout ce qu'il est. Et ça, c'est de le replacer, c'est essentiellement humaniste, c'est extrêmement respectueux.
Alors le risque, quand on n'est pas assez écouté ou que l'on craint le jugement du médecin, c'est que l'on se tourne vers Internet avec une fiabilité très très variable dans les informations proposées, docteur Charlier.
C'est pire que très variable, c'est généralement l'erreur qu'il ne faut pas commettre en fait. On ose taper sur son clavier des questions pour lesquelles on va trouver des réponses qui sont loin d'être bonnes, parce que généralement répondues par des non-professionnels ou mal orientés ou mal présentés. Pourquoi? Parce que le clavier ne vous juge pas. On n'a pas de trouble. On n'a pas de pudeur, si on peut dire, vis-à-vis de son clavier. C'est une interface qui est brute, atone, et on ose tout. C'est dommage. Et bien souvent, il y a des patients, vous savez, que j'avais eu, qui, au bout de 4, 5, 6 consultations, pose enfin la question qu'ils n'osaient pas poser. Et à ce moment-là, elles me disent, vous savez, rien que vous avoir posé la question, rien que ça, déjà, je vais mieux, je suis soulagé, je portais ça en moi comme un poids lourd, et de consultation en consultation, et voilà. Il faut oser.
Et oui, quand on a peur, quand le patient a peur de poser certaines questions, on peut être amené à mentir à son médecin. Selon une étude de la revue scientifique JAMA, entre 60 et 80% des patients mentent à leur médecin, et la honte constitue le principal moteur du mensonge. Alors, ne pas parler de certaines choses gênantes peut retarder certains diagnostics. Certains troubles quotidiens, gênants, qui nous apparaissent comme honteux, peuvent s'aggraver avec le temps.
Des pertes de sang, par exemple, au niveau de l'anus, au moment où on va à la selle, qui deviennent de plus en plus importantes. Un patient peut se dire, bon, c'est pas grave, ça doit être des hémorroïdes, ça saigne, etc. Sauf qu'il regarde un peu sur Internet, il voit que c'est pas forcément contemporain du début de la selle, ça peut être à la fin de la selle, ça peut être pendant toute la selle, mais il est mal orienté, il lit mal, parce que c'est pas précis, Internet, pardon, tout le monde ne peut pas faire un site Internet aussi bon que celui de France Inter. Et voilà, et donc du coup, il reste là-dessus, il n'ose pas poser la question, parce que quand même, bon, c'est les excréments, c'est une partie anatomique qu'on n'a pas trop envie de montrer. Et puis, bon, au bout d'un certain temps, ça devient tellement important qu'il s'anémie et autres, et là, on fait un diagnostic, hélas, trop tardif de cancer colorectal. C'est quand même dommage. Ce sont des maladies qui sont, non pas forcément évitables, mais dont le développement peut être retardé et dont le diagnostic peut être facilité simplement en parlant. Alors évidemment, c'est aussi au médecin de dire, est-ce que vous avez des problèmes à cet endroit-ci, dans les questions systématique qu'il aborde avec son patient. Et à ce moment-là, le patient doit vraiment saisir la perche et dire oui. Il ne doit pas se dire « Oh, je ne vais pas l'embêter avec ça ». Non, vraiment pas.
Docteur Chaboch.
Oui, il y a les choses graves et urgentes et les maladies vraiment dont on doit se préoccuper. Puis il y a aussi dans le quotidien les petites choses dont le patient ne va pas oser parler de peur d'être pris pour un idiot, pour un imbécile, pour « oh non, je ne vais pas lui parler de ça, la fatigue pour en venir à ça » ou d'autres choses. La sexualité, qui fait partie intégrante de notre santé. Il y a une étude de 2008 d'une institution de la sexualité française qui a marqué que 85% des Français jugent important de parler de la sexualité, mais 80 à 98% n'en parlent pas dans le contenu de la consultation. Et il y a eu des thèses qui ont été écrites sur ça, qui ont bien montré que c'est aussi le rôle du médecin. Souvent, la résistance du patient, c'est la résistance du médecin. Si le patient est à l'aise, le médecin, pardon, est à l'aise et aborde les sujets avec, on parlait tout à l'heure des signes qui ne sont pas que de communication verbaux, mais le paraverbal, le ton, la posture, le sourire, eh ben, on va être incitatif à ouvrir le dialogue avec les patients et à parler de tout d'une manière assez facile finalement.
Une auditrice sur notre page Facebook, comme il est difficile de montrer ses seins vieillissants à son jeune médecin, je n'arrive pas à me raisonner, je suis pourtant très cool et sans tabou, normalement. Docteur Charlier.
Et pourtant, le médecin ne va pas avoir un regard, d'humain classique sur ses seins. Qu'est-ce qu'il va regarder quand une patiente va se mettre à nu de la même façon, comme un homme qui va baisser son pantalon? Eh bien, il va regarder anatomiquement, tout simplement. Il ne va pas, dire « Ah, tiens, vous avez les seins qui tombent et qui flétrissent ». Non, jamais, jamais cette idée-là va... Parce qu'il est concentré sur son travail, parce qu'il est dans une écoute bienveillante. Et donc, il ne faut pas que les patients aient cette peur-là. Oui, il va même toucher ses seins. Il va les palper. Il va vérifier si la tonicité, s'il y a une asymétrie, s'il y a des nodules ou autre chose. Et à nouveau, ça sera un palpé qui sera normalement le plus respectueux possible, mais en prévenant la patiente, en lui expliquant. Si lui ne verbalise pas ce qu'il fait, ce qu'il voit, ce qu'il comprend, évidemment, ça se passera mal.
Alors, docteur Charlier, j'ai puisé tout un tas de questions dans votre livre, questions que l'on n'ose pas poser à son médecin. Quand la bouche sent mauvais, les dentistes sont évidemment confrontés à ces odeurs désagréables que l'on appelle halitose. Quelle est la cause en règle générale de cette mauvaise haleine? C'est lié à ce qu'on appelle les composés sulfurés sulfurés volatiles. Ce sont des particules chimiques qui provoquent donc cette mauvaise haleine.
Oui, généralement il y a d'ailleurs plusieurs causes qui favorisent la multiplication et l'augmentation de quantité de ces substances qui sentent mauvais, qui sentent un peu le soufre, tout simplement. L'œuf pourri, soit qu'on n'a pas assez de salive, soit qu'on évidemment ne s'est pas suffisamment brossé les dents, soit qu'on n'a pas suffisamment aéré sa bouche, et évidemment le port des masques qu'on subit encore, mais c'est normal de les mettre évidemment, ne favorise pas beaucoup cette ventilation de la bouche, la stagnation de la salive aussi, le type d'alimentation, et puis une chose importante, le microbiome, c'est-à-dire cette composition à la surface de toutes les muqueuses sur toutes les surfaces d'ailleurs du corps humain, avec des bactéries, des virus, des parasites et des champignons qui sont là pour nous protéger, pour interagir avec le milieu extérieur. Parfois, c'est déséquilibré et ça rend une mauvaise haleine. Alors, il y a, en corrigeant chacun de ces différents points, on peut ensuite améliorer son haleine.
Et sachez, si vous sentez mauvais de la bouche, c'est bien qu'on retrouve dans cette mauvaise haleine du sulfure d'hydrogène, du sulfure de diméthyl et du méthanéthiol.
Je vous sens à l'aise avec la chimie.
Exactement, j'étais très bon en chimie au lycée. Et donc, faut pas avoir honte d'en parler à son médecin non. ou à son dentiste. Hein. On peut même entrer dans le cabinet du dentiste en disant « Docteur, je sens mauvais de la bouche, aidez-moi ».
Mais vous pouvez même rentrer dans le cabinet du dentiste ou du médecin et dire « Docteur, comme vous, je sens mauvais de la bouche ». Voilà, non, faut pas... Enfin, ça, c'est quand même une des choses les plus fréquentes. On a tous senti mauvais de la bouche un jour ou l'autre, parfois même plusieurs jours. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est une banalité affligeante. Et le médecin lui-même peut aussi dire « Bon, je sens que vous avez un petit problème buccal, etc. »
C'est joliment dit.
Il peut aussi, le médecin ou le dentiste, il peut aussi s'emparer de ce problème-là et le retourner élégamment, on va dire.
Élégamment, oui, avec délicatesse et je dirais avec beaucoup de respect. Parce que par exemple, on est en train de dire qu'en fait, faut vraiment parler beaucoup avec le médecin, presque tout lui dire. Alors c'est presque comme en psychanalyse, la règle du « tout ce qui vous vient doit être dit ». Bon, oui et non aussi. Peut-être qu'il y a souvent aussi des informations qu'on peut avoir parce qu'on est proche du patient. Par exemple, la lithose, effectivement, on le sent. Quand on examine un patient, le médecin s'approche à moins de 50 cm, à moins de 30 cm d'un individu, ce qui est, je dirais, une particularité. Bon, et ben parfois on sent que le patient sent pas bon de la bouche, mais on va pas lui dire, on va pas nécessairement lui dire, ah vous avez vu comme je vous mets à l'aise, vous sentez pas bon. Mais on peut le restituer d'une autre manière.
Avec l'humour, est-ce que vous vous permettez de pratiquer l'humour sur cette question-là, par exemple?
C'est dépendant de deux choses, du style du médecin. Premièrement, ça va dépendre de sa personnalité, et ça va dépendre effectivement de quel sujet on va toucher avec le patient et de quel patient. Donc, encore une fois, c'est qu'on prend en compte à la fois le patient et sa personnalité, à la fois le médecin et sa personnalité. Moi, j'utilise beaucoup d'humour parce que ça allège les choses. Et même parfois pour des choses très graves, même pour des cancers, même pour des fins de vie, on peut se permettre d'alléger, mais quand il y a une bonne confiance, quand il y a une bonne alliance thérapeutique. Faut pas s'y risquer. Faut pas se dire, tiens, allez, oula, je sais pas comment parler de ça. Oh, bah, vous avez vu ce truc qui vous dépasse du... Non. On se calme tout de suite. On reste soi-même et c'est ça qui est important.
Allez, on s'intéresse dans un instant à d'autres odeurs corporelles, issues de votre livre, Docteur Charlier. N'hésitez pas à poser vos questions gênantes au standard 01 45 24 7000 ou si vous n'osez pas, eh bien, laissez une note vocale sur l'appli France Inter et dans quelques instants, vous retrouverez également la chronique de Baptiste Beaulieu. Et on écoute Billie Holiday, Blue Moon.
Blue Moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue Moon, you knew just what you heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me say in a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own.
Billie Holiday interprétait Blue Moon.
33.
33.
Plus fort.
33.
Grand bien vous fasse.
Allez-y, ouvrez la bouche et tirez la langue. Faites un. Encore un.
Sur France Inter.
10h33 et ce matin, vous pouvez poser toutes les questions que vous n'osez pas poser à votre médecin au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Nos experts ce matin, les médecins Philippe Charlier et Adrien Chaboch, avec bien sûr Baptiste Beaulieu.
Alors voilà, je suis venu pour... comment dire, Je suis pas malade, mais... Voilà, parfois j'ai l'impression que mon sexe sent mauvais.
Ah, et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Quelqu'un vous l'a dit?
Non, 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 pas du tout, c'est moi. C'est moi, c'est... Et du coup, comme... là, j'ai peur de coucher avec une fille en ce moment. Je voudrais savoir si c'est vrai.
Mais installez-vous, je vais regarder.
Ok. Peut-être que comme je mange pas mal de sushis, en ce moment, ça se répercute.
Oui, c'est vrai que le poisson, c'est pas top.
Ah bon?
Ben oui. Non, ils sont très bons, votre sexe. Ils sont normal. Oui, normal.
C'est vrai?
Oui. Pour vous rassurer, je vais vous prescrire un savon, mais il n'y a rien.
Extrait de « Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part » en 2020. Le personnage interprété par Benjamin Laverne qui ose parler de ce sujet tabou, hein, des questions autour des odeurs intimes. C'est l'une des questions que vous posez dans le livre que vous dirigez, Philippe Charlier. Normalement, les senteurs gynécologiques ne sont pas désagréables, en règle générale.
Oui, normalement, elles ne sont pas désagréables. Elles ne sont pas forcément agréables non plus. C'est-à-dire que c'est une odeur neutre, plutôt, en général. Même si, je crois, une actrice américaine récemment a mis au point une bougie parfumée à une odeur de vagin.
Gwyneth Paltrow.
Gwyneth Paltrow, exactement. Je ne sais pas si vous en avez chez vous. Mais
non,
en tout cas, moi,
je ne l'ai pas encore acheté, non.
Moi non plus. Mais il y a quelque chose dans l'extrait de film que vous avez passé juste avant qui est vrai, c'est que ce qu'on mange, nos aliments, vont imprimer une partie de leur odeur dans nos sécrétions. Que ce soit notre bouche, bien entendu, là où ils sont rentrés, mais également que ce soit au niveau de nos muqueuses, qui sont, par les sécrétions, une des voies d'élimination des métabolismes, c'est-à-dire de la transformation de notre bol alimentaire. Donc il y a des odeurs, en effet, qui sont parfois agréables, parfois moins. En règle générale, tout ce qui macère, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas suffisamment aéré, avec des sous-vêtements qui ne sont pas changés, par exemple, tous les jours, voire plusieurs fois par jour, quand on transpire, qu'on fait du sport, ou qu'on a des vêtements serrés. Ne pas utiliser de savon non plus. Mettre des parfums ou des substances qui sont inadaptées à la zone anatomique. Par exemple, se laver le pubis avec un shampoing anti-pelliculaire pour les cheveux, ce que j'ai vu chez certains de mes patients. Tout ça, ça modifie complètement l'équilibre toujours du microbiome, de la flore, mais également ça peut atteindre la muqueuse, l'abîmer et du coup causer pour nous, pour nos sens, une mauvaise odeur. Et puis d'autres choses encore, comme une zone rouge, par exemple, une irritation, une douleur, etc. Donc ce sont des zones qu'il ne faut pas prendre à la légère, qu'il faut aérer, qu'il faut laver, mais toujours avec des produits qui sont adaptés. Et parfois, ça peut être une maladie, évidemment. Ça peut être une infection, ça peut être une mycose. Et dans ce cas-là, il y a des signes d'appel qu'il ne faut pas hésiter à montrer à son médecin, qui peuvent être une douleur, une irritation, une rougeur. Et puis, parfois, des signes qui sont plus systémiques, donc pas locaux, mais systémiques, avec une une fièvre ou autre chose. Dans ce cas-là, il ne faut pas laisser traîner.
Si je vous comprends bien, ne pas parler d'odeur désagréable intime, ça peut retarder le diagnostic de certaines pathologies.
Oui, ça peut retarder le diagnostic de certaines pathologies, donc il ne faut pas hésiter à en parler. Généralement, le médecin peut aussi s'en rendre compte. Quand il fait déshabiller son patient, les odeurs peuvent s'imposer à lui, si on peut dire, mais il ne fait pas systématiquement déshabiller tous ses patients. Quand quelqu'un a un mal de gorge, il ne met pas la personne toute nue pour voir quelle est l'odeur de ses parties intimes. Donc l'examen n'est pas systématique.
Une autre question liée aux odeurs, quand on sent anormalement fort des aisselles ou des pieds, comment expliquer ces dysfonctionnements des glandes cutanées et comment parler de ces problèmes à son médecin? Il le sent tout de suite quand vous entrez dans le cabinet ou quand vous vous déshabillez. Voilà, mais il y a un moment qui peut être très très gênant. Comment on parle de cela avec son praticien?
Alors il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Certains sont stressés d'aller chez le médecin parce qu'ils ont peur de l'annonce d'un mauvais diagnostic ou autre chose. Dans ce cas-là, ça peut créer une situation on parle d'hyperadrénergie, une grosse sécrétion d'adrénaline et du coup des sécrétions qui sont un peu démultipliées, principalement celles de sueur. Moins celle de sébum, surtout la sueur, notamment au niveau des aisselles, du tronc, etc. Donc ça, quand on est dans les premiers patients de la journée, tôt le matin, c'est pas normal d'avoir quelqu'un qui a déjà beaucoup transpiré, qui a cette odeur un peu de macération. Quand on est à la fin de la journée, qu'on reçoit quelqu'un qui a travaillé à l'usine pendant toute la journée, oui, il a le droit d'avoir une odeur particulière. Il faut toujours juger en fonction du patient, de son activité professionnelle, de son activité personnelle, du moment de la journée, etc. Et puis, les pieds, on ne fait pas tout le temps retirer ses chaussures aux patients pour les examiner. On devrait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des pieds, que ce soit les ongles, l'espace entre les orteils, que ce soit la peau, que ce soit les artères et les odeurs également. Donc, le pied est vraiment un organe qui est extrêmement important. Moi, je regardais systématiquement chez mes patients en prison ou en médecine générale classique à l'hôpital de Nanterre.
Et très important chez les patients diabétiques.
Exactement, chez les patients diabétiques, le pied diabétique est et puis aussi les mycoses chez tous les patients qui sont immunodéprimés. C'est pas un organe, mais une zone anatomique qu'il faut vraiment regarder avec précaution.
Docteur Chaboch, on peut le resituer dans un contexte aussi historique et social. C'est-à-dire qu'il faut bien se rappeler que le stéthoscope, ce fameux outil qui est un petit peu le symbole avec le bloc d'ordonnance du médecin, a été inventé par la ENEC pour s'éloigner du patient, et notamment de la patiente, parce qu'à l'époque, on écoutait les battements du cœur en mettant son oreille sur la poitrine, mais c'est un contact qui pouvait être trop rapproché, surtout dans le contexte. Alors, il a inventé le tube, puis le stéthoscope. Et à l'époque, on goûtait les urines des diabétiques pour savoir s'il y avait du sucre ou pas dedans, et les odeurs, et on se penchait, on tâtait, on palpait. Mais c'est de la médecine clinique, et c'est au cœur de la médecine. Bon, dans notre culture, avec l'air hygiéniste, et heureusement, parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que de cela laver les mains permettait d'éviter de transmettre les bactéries d'un pavillon à un autre. Donc, heureusement qu'on a mis les mains dans le gel hydroalcoolique et dans le savon, mais ce sont aussi des règles d'usage d'une société. Je crois que dédramatiser aussi la transpiration, palper des aisselles et en avoir plein sur les mains, c'est une réalité absolument formelle de l'examen clinique. On se lave les mains après, évidemment, et il faut dédramatiser, il faut alléger.
En l'occurrence, pour les pieds, juste quelques conseils pratiques pour ceux qui éventuellement sentiraient mauvais des pieds. Petit rappel des règles, on change évidemment de chaussettes tous les jours, voire plusieurs jours, si jamais plusieurs fois par jour, si on transpire beaucoup, qu'on a fait du sport ou autre. On ne dort pas avec des chaussettes. On se lave bien entre les orteils. Et surtout, quand on quitte la baignoire ou la douche, on sèche bien ses pieds pour ne pas partir avec de l'humidité à cet endroit-là. Et puis, on privilégie les chaussettes avec un matériau qui est absorbant de l'humidité plutôt que des chaussettes ou des chaussures avec un pied qui macère. Donc, ça peut être des espadrilles, par exemple, l'été. C'est pas mal, les espadrilles.
Alors, abordons un sujet qui me semble très tabou, ce sont les fuites anales. Quand les sphincters lâchent, c'est l'un des chapitres du livre que vous dirigez, Philippe Charlier. De façon très générale, la proctologie reste une spécialité assez taboue. On peut facilement parler de ces migraines à la machine à café, un peu moins du fonctionnement de ces sphincters.
Oui, c'est probablement la zone anatomique pour laquelle la pudeur est la plus extrême. Et pourtant, c'est une des zones anatomiques qui nous rapproche tous. Souvenez-vous que nous sommes tous assis sur cette partie, ça nous rapproche. Et puis également, c'est une zone qui sera forcément toujours malade. On a tous eu un jour une diarrhée, on a tous eu un jour une douleur à cet endroit-là, une petite perte de sang, que sais-je. Donc, on est tous touchés par cette zone anatomique. En l'occurrence, les fuites anales sont une perte d'excréments involontaires, hors de la volonté. C'est-à-dire qu'on est, on est debout dans le métro et tout d'un coup, on sent un peu de liquide chaud ou de matière fécale qui tombe dans le slip ou dans le caleçon. Et ça, de façon évidemment absolument involontaire. Il ne faut pas laisser passer ce genre de choses, il ne faut pas hésiter à en parler, il ne faut pas se dire, bon, ça va disparaître tout seul, c'est un cas où je ne veux pas embêter mon médecin parce que c'est sale. Non, pardon, je vais paraphraser quelqu'un des années 90, mais ça n'est pas sale, c'est totalement dans la nature humaine, et ça peut être révélateur aussi de problèmes neurologiques, de problèmes gastro-entérologiques, de problèmes également anatomiques. Donc ça risque d'empirer si on n'en parle pas, c'est ça le danger, c'est que ça risque d'empirer ou de cacher quelque chose de plus grave et de plus difficile à traiter. Donc dès que ça arrive, ce genre de choses, même à un âge jeune, il y a des patients de 13-14 ans, des garçons ou des petites filles qui ont ce type de choses, qui peuvent révéler une maladie un petit peu plus grave, mais qui peut être traitée, en tout cas contrôlée pendant un certain temps. Je pense aux maladies inflammatoires de l'intestin.
Autre tabou, les hémorroïdes. Pouvez-vous nous expliquer très rapidement ce que sont les hémorroïdes? Elles peuvent être internes ou externes. Quels sont les symptômes qui doivent conduire à consulter sans avoir peur d'en parler à son médecin?
Alors, on a tous des hémorroïdes, même vous. J'en suis intimement persuadé parce que c'est anatomique. Les hémorroïdes, tout le monde en a. Ce qui fait mal, c'est la thrombose hémorroïdaire, c'est les crises hémorroïdaires. Mais les hémorroïdes, on en a tous. Mmh. Ce sont des paquets vasculaires qui sont juste au-dessus de l'anus et juste en dessous de l'anus et dont le gonflement et le dégonflement permettent d'augmenter un tout petit peu la tonicité de l'anus et donc de retenir les matières fécales à l'intérieur du pelvis. Eh bien, c'est pour des raisons diverses qui peuvent être principalement positionnelles, mais également le type d'alimentation, pas assez de fibres, et puis également d'autres critères neurologiques ou de stress. Mais surtout les toilettes. Les toilettes sont inadaptées pour notre population. Là, c'est l'anthropologue qui parle. Elles sont soit trop hautes, soit trop petites, mais on n'est pas dans la bonne position tronc par rapport à bassin par rapport à membres inférieurs pour exonérer, c'est-à-dire libérer les excréments sans faire peser une pression trop forte sur nos hémorroïdes.
Un petit truc, peut-être mettre un petit tabouret au niveau
des pieds
pour remonter.
Exactement. Ça, déjà, ça améliore considérablement la stature, si on peut dire, ou la statique pelvienne. Voilà, les hémorroïdes sont un fléau moderne. L'alimentation y est pour beaucoup. On mange de moins en moins de légumes, on mange de moins en moins de fruits. Mais c'est surtout les légumes, les fibres qui sont extrêmement importants. Et c'est sûr que quand on fait un sandwich saucisson le matin et un kebab frites le soir, c'est ascenseur pour les hémorroïdes.
Docteur Chaboch, comment abordez-vous ces sujets-là, des fuites anales, des hémorroïdes ou encore des fuites urinaires? Comment vous abordez ce sujet?
Tout d'abord, j'essaie de développer en amont la meilleure alliance thérapeutique qui puisse être pour mettre le patient à l'aise. Bon, ça se fait à condition qu'effectivement je revoie mon patient. Si ça se fait, tant mieux, mais si c'est un patient qui va venir pour la première fois que je ne sais pas, selon la manière, et c'est là aussi où c'est l'importance du sens clinique. Philippe Charlier a rappelé, je reviens parce que c'est très important, sur le sens de l'observation. On peut observer, sentir, c'est pas une intuition comme ça, un peu fantasque, c'est vraiment un sens du médecin qui a sentir que le patient essaye de nous dire quelque chose. Dans la présentation de la chronique de Baptiste Beaulieu tout à l'heure, effectivement, on sent bien cette hésitation, ce ton de voix, cette manière de dire. Si on connaît notre métier sur ce plan-là, on va se dire, oh, ok, il y a un motif de consultation que le patient souhaite aborder, mais qu'il n'y arrive pas. Donc, comme on n'en a pas non plus 36 000, finalement, on peut faire le tour assez facilement de la question. Est-ce que vous auriez quelque chose peut-être de ce côté-là? Et là, avec délicatesse, encore une fois, on n'est pas obligé de dire, voilà, est-ce que vous avez du sang plein? Est-ce que vous avez une descente d'organes? Est-ce que ça fuit? Non, il n'y aurait pas quelque chose qui vous gêne un petit peu? Il y aurait quelque chose que vous vouliez me dire à ce sujet? Voilà.
Question taboue d'ailleurs sur les descentes d'organes. Docteur Charlier, vous consacrez un chapitre à cette question.
Oui.
Expliquez-nous ce que c'est peut-être en quelques mots.
Une descente d'organes, c'est un organe qui normalement est dans le pelvis, peut-être la vessie. Concentrons-nous sur les femmes par exemple. Ce peut être la vessie, ce peut être le vagin, ce peut être l'utérus et tout en postérieur l'anus et le rectum, qui sort tout simplement, soit tout seul, soit accompagné d'autres organes, qui sort par définition, à l'extérieur. Ça, ça survient de façon physiologique, de toute façon, au fur et à mesure du temps, avec le vieillissement et avec le fait que les fibres musculaires et tendineuses vont s'abîmer, vont s'altérer, et ça va avoir de moins en moins de possibilités de retenir ces organes vers le bas du bassin. Et puis, malheureusement, pour une femme qui a eu des enfants, qui n'a pas forcément eu de rééducation périnéale après, ou qui a eu des dégâts au moment de l'accouchement, avec un traumatisme périnéal qui n'a pas forcément été bien
périnéal,
pris en charge.
Périnéal, c'est lié au périnée.
Oui, c'est lié au périnée, c'est-à-dire cette partie qui correspond à la fente embryologique entre l'anus et le devant, donc le pubis, eh bien, tout ceci peut tomber au fur et à mesure. D'où l'intérêt...
De travailler son périnée.
De travailler son périnée, mais même au quotidien. J'espère que là, pendant que vous êtes en train...
Je suis en train de travailler.
Je le vois, vous tressautez, en fait.
Je travaille en prévention. Allez, dans un instant, on s'intéresse à d'autres questions taboues. Et en attendant, on écoute notre camarade Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Baptiste Beaulieu.
Je voulais vous parler de ce patient, on va l'appeler Émile. Émile vient parce qu'on lui suspecte un cancer et il vient avec les résultats d'une prise de sang où un confrère lui a noté les marqueurs tumoraux. Il me tend les résultats, me dit « je n'ai pas regardé ». Je sens qu'il est fébrile, qu'il a peur et c'est normal. J'ouvre le papier, je lis « aucun des marqueurs tumoraux n'est supérieur à la normale ». Je pousse un soupir de soulagement dans ma tête et j'adresse cette phrase au patient « bon, tout est négatif ». Et dans les faits, j'ai raison, aucun des marqueurs tumoraux n'est positif. Mais je vois le visage de mon patient se décomposer et je comprends que, petit 1, lui et moi ne parlons pas le même langage. Petit 2, je viens de lui parler comme un médecin alors que j'aurais dû lui parler comme un soignant et ce n'est pas la même chose. Si je vous raconte cette histoire, c'est parce que oui, la médecine, c'est ce domaine étrange, celui de l'incommunicabilité entre les êtres. Le terrain de l'incompréhension mutuelle, car nous sommes seuls dans nos corps, seuls dans ce vaisseau de chair, que toute douleur est subjective, que je ne saurai jamais ce que l'autre en face de moi espère, ou craint, ou ressent, ni combien il souffre. La médecine, c'est ce lieu bizarre où ce qui est positif sur le papier est négatif pour le patient et où ce qui est négatif sur le papier est extrêmement positif pour l'être humain inquiet en face de nous. Oui, les marqueurs tumoraux d'Émile sont dans les clous. Ils ne sont donc pas positivés. Ils sont donc négatifs. Mais pour le patient, pour Émile, pour cet autre en face de moi qui vient du monde du dehors, extérieur à la technicité que réclame aussi la science médicale pour être pleinement efficace, ce mot négatif recouvre une toute autre signification. Et vous savez, Ali, j'apprends encore. Je suis un jeune soignant, je commets des erreurs, j'en tire des expériences. Et c'est long, ça, de devenir meilleur. Chaque patient permet de s'améliorer, de mieux comprendre l'autre, de mieux l'écouter, de mieux le soigner. Oui, j'apprends encore, jour après jour. Et peut-être que ça existe, la consultation parfaite. Ce moment où tout, du début à la fin, du bonjour au passer une bonne journée, semble être posé comme sur un tapis roulant. La consultation parfaite, où la communication entre les êtres est parfaite. Peut-être qu'on apprend toute notre vie à soigner, peut-être que c'est à la fin de notre carrière, le dernier jour, la dernière consultation, qu'on sent que, ouvrez les guillemets, quelque chose de spécial opère. Juste avant de fermer pour toujours le cabinet médical, le dernier patient passe la porte et, ouvrez encore les guillemets, quelque chose se passe, qui n'est jamais arrivé ou jamais aussi idéalement. La rencontre entre une souffrance qui s'exprime humainement et une oreille affûtée qui l'entend parfaitement et une bouche infaillible qui donne la réponse impeccable. Peut-être qu'on ne devient médecin qu'à la fin, Ali, et qu'on essaie tout le reste de notre vie.
Et vous pouvez podcaster la chronique « Alors voilà » de Baptiste Beaulieu sur l'appli France Inter. Allez, dans un instant, on s'intéresse à d'autres questions taboues que l'on n'ose pas poser à son médecin.
Est-ce que tu sais que 8 jours ça fait 11 520 minutes à la seconde près? Est-ce que tu sais que les avions planent 10 fois leur hauteur, dit ton maître près? Est-ce que tu sais que quand les fleurs se fanent, elles nous laissent leur odeur, leur amour là, ici et tout autour. Est-ce que tu sais que quand le meilleur gagne, la plupart du temps c'est juste à un millimètre près. Je sais pas si tu sais, 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 je sais pas si tu sais. Est-ce que tu sais que de nos yeux coulent des larmes, des fleuves et des fleuves. Je peux pas te dire à la rivière après. Est-ce que tu sais que nous deux doigts poussent des armes, des tonnes et des tonnes. Je peux pas te dire au drame près. Je sais pas si tu sais, 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 je sais pas si tu sais.
Gaëtan Roussel, est-ce que tu sais ?
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
Et on s'intéresse ce matin à toutes les questions que vous n'osez pas poser à votre médecin. Et je vous propose d'écouter une note vocale.
Il y a quelques années, j'ai été diagnostiquée avec des condylomes. J'ai donc demandé à mon compagnon de l'époque d'aller chez le médecin. Et quand il est revenu, il m'a scandalisée parce qu'il m'a dit que le médecin s'était contenté de lui demander si il pensait qu'il avait des lésions au niveau des parties génitales et de l'anus, sans même aller l'examiner. Et donc, il a fallu que j'insiste extrêmement fortement pour qu'il retourne voir le médecin et que le médecin l'examine pour effectivement trouver des lésions et du coup recevoir un traitement. Et du coup, c'est aussi les médecins qui hésitent à faire les examens, et j'aurais tendance à dire notamment chez les hommes.
Docteur Philippe Charlier.
Eh bien, madame a bien raison. Elle a eu entièrement raison d'insister pour que ce patient revienne voir le médecin. Et c'est vrai que des fois, ce sont les médecins qui ont des tabous. Et des médecins qui n'osent pas, soit parce qu'ils n'ont pas envie, soit parce qu'ils trouvent ça peu ragoûtant, soit ils ont l'impression, de façon très condescendante, que non, je ne vais pas m'abaisser à regarder l'anus d'un patient, je préfère m'intéresser à autre chose. C'est pas forcément un gage de qualité de l'art médical chez certains de ses confrères. Tout est sur un pied d'égalité. Et la totalité de l'homme est respectable, depuis les pieds jusqu'au bout des orteils. Donc toute zone anatomique est importante et on ne juge ni le corps, ni l'esprit. Tout simplement.
Les questions dermatologiques sont souvent source de tabous. La peau qui reflète notre image et raconte notre histoire. Quand on est atteint d'une maladie chronique de la peau, comme le psoriasis, on peut avoir du mal à en parler à son médecin avec un retard dans la prise en charge. Alors je rappelle que le psoriasis est une maladie bénigne qui altère sévèrement la qualité de vie et qui touche environ 2 à 5% de la population générale. Comment parler du psoriasis à son médecin, docteur Charlier.
Alors on pourrait parler autant du psoriasis que de l'urticaire ou de l'eczéma, qui sont des maladies fréquentes. Le psoriasis lui-même est une maladie fréquente. Et là, je prends juste ma casquette d'anthropologue pour 30 secondes. La peau est vraiment l'interface entre l'individu et le milieu extérieur. C'est le miroir de l'âme, la peau. Pas simplement le visage, mais la peau en entier. Je vois une partie de votre torse, vos avant-bras, ça s'arrête là. Voilà, on voit, c'est une partie de vous-même que vous projetez dans les yeux de l'autre et de la société. Donc on comprend, pour se mettre un tout petit peu à la place de ces patients qui ont de telles maladies dermatologiques chroniques, que oui, ça peut les blesser dans l'image d'eux-mêmes qu'ils donnent aux autres et qu'ils se renferment un tout petit peu sur eux. Justement, pour faciliter cette réouverture, pour canaliser ces maladies, donner en l'occurrence les traitements ou les comportements qui vont diminuer l'importance du psoriasis, diminuer le nombre de poussées ou de crises, ou l'importance de ces poussées, avec des médicaments adaptés, avec des ultraviolets, des séances les unes après les autres, eh bien, il faut justement en parler avec le médecin. C'est une maladie qui, en effet, est une maladie sévère dans certaines formes, mais qu'on a la possibilité de canaliser, de borner véritablement. Donc c'est dommage de passer à côté de cette opportunité.
Docteur Chaboche, sur le même thème.
Dans le cadre d'une approche qui va être centrée sur la personne, c'est on va tenir compte aussi de la souffrance ressentie. On peut avoir le psoriasis, la maladie psoriasique, et aussi le retentissement du vécu sur ça. Et là, peut-être ce que Baptiste Beaulieu allait dire, c'est qu'on a pu nous-mêmes ressentir effectivement des dermatoses médicales, et on peut faire appel aussi à ça pour se rappeler que le patient en souffre aussi, et de prendre en charge les deux, pas juste le technicien.
Un mot de conclusion, docteur Charlier, sur notre sujet du jour, ces questions que l'on n'ose pas poser à son médecin.
Eh bien, dans ce livre, on a essayé de trouver les réponses aux questions que vous ne vous avez pas posées. On a essayé avec de nombreux collaborateurs, dermatologues, dentistes, proctologues, gastro-entérologues et chirurgiens plasticiens aussi, car certains ne sont pas satisfaits de leur propre image et de leur intimité. Certains trouvent qu'ils ont les seins trop petits ou trop longs ou trop courts. Pareil pour les sexes masculins ou autres. On n'est jamais ou rarement content de soi-même, content de sa santé, mais aussi content de son anatomie. Donc, on a essayé dans ce livre de faire travail utile, en tout cas. Ça ne doit pas vous inciter à trouver toutes les réponses dans ce livre et à ne pas en parler à votre médecin. Mais ça doit vous aider, en tout cas, à trouver quelques éléments de réponse, à entamer un dialogue salutaire, dans le bon sens du terme, avec votre praticien.
Merci beaucoup, docteur Philippe Charlier. Votre livre est publié chez Humaine Science, ces questions que vous n'osez pas poser à votre médecin. Merci, docteur Adrien Chaboche. Vous revenez jeudi matin pour un débat consacré aux médecines dites complémentaires et souvent source de dérives en ces temps de pandémie. Merci, Baptiste Beaulieu. À suivre Nagui et sa bande originale.